France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Lumumba ou l'indépendance assassinée. Le 17 janvier 1961, le premier ministre du Congo, devenu indépendant, meurt en brousse, comme l'indique son certificat de décès. Il aura dirigé 2 mois à peine le premier gouvernement du Congo indépendant, prenant le relais du colonisateur belge, qui n'a pas rechigné pour accorder sa liberté au Congo au milieu de l'année 1960. Décision prise sans heurts donc, mais avec une précipitation insensée. 4 mois seulement pour préparer la naissance d'une nation. Autant dire que les Congolais n'étaient pas prêts, ou plutôt n'avaient pas été préparés pour cette indépendance. Farouche nationaliste, Lumumba est bien décidé à faire enfin profiter les Congolais des richesses incommensurables de leur pays. Mais les entreprises belges, qui exploitent ces richesses pour leur compte, ne l'entendent pas ainsi. Et elles feront tout pour empêcher Lumumba de mettre en œuvre son projet politique jusqu'à son élimination physique. Un drame qui est aussi très clairement un épisode de la guerre froide, qui en ces décennies des années 50 et 60 se joue aussi par pays du tiers-monde interposé. Notre invitée aujourd'hui, Colette Brakman, grande reporter, spécialiste de l'Afrique pour le grand journal belge Le Soir. Elle est aussi l'autrice de nombreux livres sur le Congo. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnant, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Léopoldville, 16 mai 1955. L'avion royal de la Sébéna se pose sur le tarmac du principal aéroport du Congo belge. Tout sourire, le jeune souverain du royaume de Belgique emprunte l'escalier. Portant veste militaire d'un blanc immaculé, coiffé d'un képi tout aussi étincelant, lunettes d'aviateur sur le nez et sabre d'apparat sur le flanc droit, Baudouin Ier pose pour la première fois le pied dans la lointaine colonie africaine de son petit royaume. Commence alors un voyage de 6 semaines. Le roi des Belges visite une à une les cités de ce territoire, large de 80 fois la surface de la Belgique. Le long du trajet, qu'il parcourt en jeep décapotable, des foules de Congolais se pressent. Des enfants entonnent la Brabanson, l'hymne national belge. Les femmes agitent des foulards en criant « Notre roi ». Elles ont baptisé ce souverain de 25 ans « Mwana Kitoko » ou « Beau jeune homme ». Les reporters belges, venus rendre compte en masse de la rencontre du jeune roi avec son peuple d'Afrique, ne se lassent pas de raconter cette ferveur populaire.
Voyage royal au Congo. Le roi reçoit maints témoignages de sympathie individuelle et sa voiture se trouve fréquemment bloquée par la foule indigène. Des dizaines de milliers de Noirs ont quitté la brousse de 10 lieues à la ronde pour voir et acclamer Mwana Kitoko. Suivre à la course, quelques instants, le sillage royal. Au timide hommage de fleurs des enfants blancs, répond celui des fillettes noires que le roi reçoit avec la même gentillesse. Parfois aussi, c'est l'image touchante d'un bambin pleurant d'émotion et que le roi console à la façon d'un grand frère. Quelle que soit son issue, la mission royale aura considérablement élargi les sympathies congolaises pour la Belgique.
Le roi Baudouin assiste à des danses traditionnelles dans les villages les plus reculés. Et dans les villes, il rencontre aussi de jeunes Congolais qui veulent le convaincre d'alléger un peu le joug de la colonisation. Il réclame notamment un droit à l'éducation. Parmi eux, un jeune homme fluet, mais qui compense son physique fragile par des yeux perçants d'intelligence et une maîtrise parfaite de l'art oratoire, un certain Patrice Emery Lumumba. Et rapidement, il ne va plus se contenter de quémander quelques privilèges pour quelques Noirs du Congo méritants. Non, il veut plus.
L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous serons très bien marchés parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain où chacun aura sa place où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise.
Nous sommes en 1958, 3 ans après le grand voyage de Baudouin, quand Lumumba prononce ce discours conciliant mais ferme. Conciliant parce qu'il n'est alors question que de bonne intelligence entre les colons et les colonisés. Pourtant, ce que les populations autochtones ont vu du colon belge jusque-là, c'est l'appropriation de leurs terres, de leurs richesses et de leur force de travail. L'histoire de la colonisation du bassin du fleuve Congo par les Belges est tissée de violences et d'exactions, comme toutes les histoires de colonies. Celle-là est au début le fait d'un seul homme, Léopold II, le deuxième roi de cette nouvelle couronne de Belgique créée en 1830. Et il porte de fortes ambitions pour son pays. Il est par ailleurs fasciné par les récits de voyage des explorateurs. Les exploits du Britannique Stanley retiennent particulièrement son attention. Depuis le lac Tanganyika, à l'ouest de la Tanzanie, il a découvert un fleuve inconnu des hommes blancs dont il a suivi le cours jusqu'à l'océan Atlantique. Quelques années plus tard, en 1883 et 1884, pour le compte du roi des Belges, Stanley l'aventurier remonte le fleuve Congo dans l'autre sens. Et là, il conclut des traités avec les chefs des villages implantés sur les berges, qui lui cèdent leurs terres sans comprendre vraiment ce qu'ils font. Et en 1885, coup de maître de Léopold II, au cours de la conférence de Berlin, il parvient à faire reconnaître ses droits sur ce colossal morceau d'Afrique centrale qui scelle le sort colonial du continent. Léopold II ne mettra jamais les pieds dans son empire tropical. En revanche, il en exploitera intensément les ressources. L'ivoire des éléphants, tout d'abord, puis le caoutchouc, dont on ressent un immense besoin en Europe avec la multiplication des vélos et des automobiles. Cette sève de l'arbre caoutchouc, les populations locales sont contraintes de la récolter en masse au cœur de la forêt. Et les villages, qui ne s'acquittent pas du dû fixé par les représentants du roi des Belges, sont châtiés. On coupe les mains de ceux qui sont jugés trop peu productifs, par exemple. Et puis, on vient évangéliser, ce qui n'est jamais bon signe. Le missionnaire protestant Joseph Clark rapporte en Europe les atrocités commises.
La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant.
Sous le choc de ces témoignages, de grands écrivains prennent la plume, tels Mark Twain ou Arthur Conan Doyle. La pression internationale force ainsi le roi à céder le gigantesque jardin tropical à son pays, la Belgique, cette monarchie constitutionnelle où lui-même n'exerce aucun pouvoir véritable. Le Congo devient belge en 1908, mais l'exploitation ne cesse pas, au contraire. D'autres ressources, comme le cuivre, le cobalt et bientôt l'uranium, sont disponibles à foison sous le sol congolais, des matières qui deviennent indispensables au fonctionnement des puissances industrielles européennes. Quand Baudouin Ier prend connaissance de sa colonie de Cocagne, en 1955, le Congo relève de l'État belge depuis moins de 50 ans. Et on n'imagine pas, à Bruxelles, comme parmi les colons, que cela puisse s'arrêter un jour. Un homme, pourtant, va jeter un pavé dans la mare. Jeff Van Bilsen, un ancien journaliste, correspondant de l'agence belga au Congo. Dans un article, il dessine un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge. En bref, il conseille à ses compatriotes d'engager un processus de décolonisation à l'horizon 1985. Bien, mais pour cela, il faut former les Congolais, construire une élite, faire émerger des médecins, des officiers, des fonctionnaires, des ingénieurs, pour imaginer une nouvelle nation volant de ses propres ailes dans un futur lointain. Or, en 1955, l'élite congolaise est inexistante. Seule une poignée d'hommes noirs se prévalent de la qualité d'évolué. Ils parlent le français, portent des vêtements de blanc et aspirent au même confort matériel. Une dizaine de milliers d'hommes, pas plus, et aucune femme. Tout cela sur 10 millions d'habitants autochtones. Mais une poignée qui réfléchit à ses droits et aux différences de traitement abyssales entre les Noirs et les Blancs. Parmi eux, Patrice Lumumba, donc. Pour revendiquer pleinement l'indépendance, il crée son parti, le Mouvement National Congolais. Il n'est pas le seul à vouloir entraîner les foules dans cette logique. Joseph Kasa-Vubu est une autre figure qui émerge. La différence entre le MNC de Lumumba et l'ABAKO, le parti de Kasa-Vubu, c'est leur rapport au territoire. L'ABAKO est bien implanté dans la région de Léopoldville, la ville principale de la colonie à l'embouchure du fleuve. Et s'il s'y fait le porte-parole de l'ethnie locale, les Bakongo, il est pour autant très populaire. Le MNC, de son côté, s'affirme nationaliste. Il veut combattre le séparatisme régional et il recrute des militants dans toutes les ethnies congolaises. Lumumba est lui-même originaire du Kasaï, à l'est, dans la région des Grands Lacs. Il est issu de la tribu des Batetela. Mais c'est à Stanleyville, au nord de la colonie, qu'il commence sa vie professionnelle dans un bureau de poste. Le 4 janvier 1959, Léopoldville étouffe dans la chaleur moite de la saison des pluies. Des supporters de foot galvanisés bifurquent vers le majestueux stade Reine Astrid pour un match important du championnat congolais, très populaire. D'autres supporters, plus politiques, ceux de Joseph Kasa-Vubu, se retrouvent, eux, devant une porte close à quelques dizaines de mètres du stade. Un meeting de leur parti, l'ABAKO, était prévu, mais il vient d'être interdit par le gouverneur. Alors, les esprits s'échauffent. Puis l'émeute prend corps, alors que les fans de football quittent le stade quelques heures plus tard. Jusqu'à semer la panique dans les quartiers blancs, comme le raconte Interactualité.
La police débordée, la bagarre dégénère en émeute, la foule hurlante se répand dans les rues de la ville africaine, incendiant et pillant les boutiques tenues par les commerçants européens qui, menacés dans leur vie et dans leurs biens, protègent leur retraite à coups de carabine. Dans la ville européenne où l'on craint le pire, les Quinois, c'est le nom des habitants de Léopoldville, les Quinois circulent armés de revolvers. Mais l'armée intervient, place des automitrailleuses aux endroits névralgiques et toute la nuit procède à des opérations de ratissage et de quadrillage. Ce matin, je vous l'ai dit, le calme règne, mais le tragique bilan s'établit à 30 morts et 80 blessés.
Les mains sur la tête !
Ce bilan, délivré le surlendemain des événements, est largement sous-estimé. Parce que ce sont plutôt plusieurs centaines de personnes qui perdent la vie sous les balles de l'armée et celles des colons. Après ces scènes de violence, dont les images font le tour de la planète, l'État belge est sous pression. Tous les fins connaisseurs de la situation congolaise pressent le gouvernement de Bruxelles de tracer sans ambiguïté un chemin vers l'indépendance. Et c'est le roi Baudouin en personne qui délivre la nouvelle doctrine belge. Le 13 janvier 1959, une bonne semaine après les émeutes, il prononce un discours largement radiodiffusé dans tout le Congo. Et le message est limpide. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Message reçu 5 sur 5. L'indépendance semble acquise. Bien, mais quand ? Pour peser dans le débat en montrant un front commun, Patrice Lumumba convainc les autres organisations politiques d'exiger une date fixe pour l'indépendance. Et tous se mettent d'accord sur le 1er janvier 1961, autrement dit dans moins de 2 ans. Le délai court, c'est clair. Mais Lumumba, qui certes n'a aucune expérience du pouvoir, est confiant. Au Ghana voisin, 2 années avaient été suffisantes pour préparer l'autonomie alors. Et c'est le même front uni de leaders congolais qui se présente à Bruxelles le 20 janvier 1960 pour un round de discussion avec les parlementaires belges.
Bruxelles, Palais des Congrès, séance inaugurale de la table ronde belgo-congolaise. Objectif de la conférence, définir entre Congolais et Belges les moyens d'organiser pratiquement l'exercice de l'indépendance congolaise en fonction des principes démocratiques, des aspirations africaines, des intérêts généraux du Congo et des futurs rapports Belgique-Congo. 44 délégués congolais représentant proportionnellement les divers partis autochtones et 20 délégués parlementaires belges représentant nos 3 partis traditionnels vont, ainsi que l'a défini le Premier ministre Eskens, rechercher ensemble les recommandations à présenter à notre Parlement.
« réunissent en feuille de route tracée par le pouvoir belge, les chefs de parti congolais quittent Bruxelles un mois plus tard, avec l'impression d'avoir tout gagné. L'heure à tout, avoir fait leur, la devise de la Belgique qu'ils désirent tant quitter, l'union fait la force. Lucide, le gouvernement belge craint des émeutes de plus en plus incontrôlables s'il n'accède pas aux revendications du Front uni. Il cède donc sur le principe. Mais la Belgique compte bien garder la main sur son ancienne colonie, indépendance ou pas. Un peu, voire beaucoup, comme la France-Afrique. Lumumba et consorts arrachent surtout une date lors de cette table ronde belgo-congolaise. L'indépendance est fixée pour le 30 juin 1960. 4 mois plus tard, donc, 4 mois seulement, pour écrire une constitution, organiser des élections afin de former une chambre des représentants et un sénat, et constituer un corps diplomatique. 4 mois pour créer une monnaie nationale et dessiner des timbres, ça paraît fou. Aux défis institutionnels gigantesques s'ajoutent les problématiques économiques. Fin avril 60, à 2 mois de l'échéance, une autre table ronde est organisée. Au menu, l'avenir des entreprises de la colonie. Alors que la campagne bat son plein au Congo pour les premières élections libres, ce sont les seconds couteaux des partis qui sont envoyés négocier à Bruxelles. Et ils se font copieusement enrouler dans la farine. Après l'indépendance, les entreprises présentes sur le sol congolais pourront en effet choisir leur régime fiscal, celui du nouvel État du Congo ou celui de la Belgique. Toutes les sociétés choisiront au final de payer leurs éco-services fiscaux, belges évidemment. Pas encore née, la République du Congo indépendant est déjà ruinée. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Patrice Lumumba ou l'indépendance assassinée.
Affaires Sensibles.
Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.
Fabrice Drouel.
En juin 1960, le Congo est officiellement indépendant depuis minuit une. Une grande cérémonie de passation des pouvoirs doit avoir lieu dans la matinée, dans l'ancienne demeure du gouvernement transformée à grande vitesse en palais de la nation, futur siège du Parlement nouvellement élu. Assez logiquement, c'est le mouvement national congolais de Patrice Lumumba qui sort gagnant des premières élections libres. Mais il n'emporte que la majorité très relative, 33 sièges sur les 137 en jeu. Il parvient tout de même à former un gouvernement, disparate, éclaté entre les représentants de 12 partis différents. Et il en est le Premier ministre et le ministre de la Défense. L'autre personnalité majeure du jeu politique, Joseph Kasavubu, devient lui le premier président de la République du Congo. En cette qualité, c'est lui qui doit recevoir le pouvoir des mains du roi Baudouin. Calquant l'architecture institutionnelle belge, la nouvelle République du Congo est un régime parlementaire dans lequel le président inaugure les chrysanthèmes comme dans toute formule parlementaire. Dans le palais de la nation, en ce jour de l'indépendance, c'est tout de même le roi Baudouin qui prend la parole. Entouré des conseillers du palais, de quelques généraux plastrons médaillés, le jeune souverain fait face aux 137 députés et sénateurs congolais.
Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance.
L'inflexion paternaliste du roi, son hommage appuyé à son ancêtre Léopold II, synonyme de tant de souffrance pour les Congolais, font grimacer les élus du MNC. En particulier le premier d'entre eux, Lumumba, qu'on voit raturer des feuilles de papier d'un geste vif et énervé. La voix aussi ronde que sa silhouette, le président Kasavubu prend à son tour la parole. Et là, le ton est conciliant. Il salue la sagesse de la Belgique pour cette indépendance sans violence, un fait sans précédent dans l'histoire, dit-il. Tournons-nous maintenant vers l'avenir, dit-il encore avant de proclamer solennellement la République du Congo. Mais avant de se regarder vers le futur, le premier ministre congolais a des comptes à régler avec le passé.
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force.
Les mots de Lumumba glacent la tribune officielle. Le roi Baudouin se penche vers Kasavubu en quête d'explication. Et le nouveau président congolais, lui, reste figé devant l'impudence et l'imprudence de son premier ministre, par ailleurs, principal rival. Bon, on signe toutefois le traité officiel de décolonisation.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance, tcha-tcha, Kosouillé.
Et la fête peut commencer, même si le roi Baudouin, toujours offensé, écourte son séjour. Des parades militaires défilent sous les vivas, la rumba congolaise éclate à tous les coins de rue et la bière coule à flot. Et 4 jours plus tard, c'est la gueule de bois. Nous sommes le 4 juillet 1960. Ce jour-là, quelques soldats de la caserne Léopold II à Léopoldville refusent de saluer leurs supérieurs lors du passage en revue. Leurs supérieurs, tous des blancs. Comme dans toutes les entreprises lucratives du Congo, toujours dirigées par des Belges, les officiers de la force publique, comme on nomme l'armée, sont tout aussi blancs. Ce petit millier de Belges continue à diriger 25 000 soldats congolais. Le lendemain, le commandant en chef de la force publique, le général Janssen, rend visite aux troupes récalcitrantes. Il inscrit à la craie sur un tableau vert « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Et cette oucasse fait flamber la mutinerie, évidemment. Lumumba tente bien d'éteindre le feu. Il promet un relèvement de la solde, mais surtout, démêler la hiérarchie blanche pour nommer à la hâte de nouveaux officiers noirs. Parmi eux, un certain Joseph Désiré Mobutu, qui devient chef d'état-major. En Belgique, on reçoit très mal cette décision. Comment garantir la sécurité des Belges restés au Congo et, surtout, de leurs intérêts économiques si on ne peut plus compter sur l'armée? Les actualités belges relatent ces premiers jours d'indépendance sous l'angle du chaos et sur fond de voitures qui brûlent.
Congo, année zéro de l'indépendance. Toutes les images qui nous en parviennent reflètent l'anarchie dont la force publique est l'instrument alors qu'il aurait dû la rendre impossible. Aucune vexation n'est épargnée aux Blancs, aux Belges, considérés comme des ennemis. Exode tragique des Européens d'un territoire plus grand que l'Europe. Les plus chanceux peut-être furent ceux qui trouvèrent refuge immédiat de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Voici les passagers d'un avion parmi tant d'autres, transportant des rescapés vers les bases principales d'évacuation. Tout cela pendant que les responsables congolais attisent les passions déchaînées au lieu de les apaiser.
Les informations participent au mouvement de panique. À partir de ce 9 juillet 1960 et pendant les semaines qui suivent, 30 000 Européens quittent leur vie congolaise. Le 10, une unité de paracommando de l'armée belge est larguée à Luluabourg quand d'autres troupes atterrissent à Elisabethville, cité principale du Katanga. Deuxième brèche dans l'intégrité nationale. Le lendemain, le 11 juillet, cette province du Katanga fait sécession. Celui qui s'institue président, Moïse Tshombe, reçoit immédiatement le soutien des troupes belges qui désarment les soldats congolais de la force publique et qui laissent constituer une nouvelle armée, la gendarmerie katangaise. Pourquoi le Katanga? Pourquoi un tel enjeu? Parce que c'est le coffre-fort du Congo. Formant un petit quart au sud-ouest de son immense territoire, la région regorge de cobalt, d'argent, de radium et surtout de cuivre. Encore aujourd'hui, le Katanga reste le premier producteur mondial de ce minerai. Le 12 juillet, on dicte un long télex à Léopoldville. Destination New York, siège des Nations Unies. Il est signé Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba et il sollicite, je cite, l'envoi urgent par l'ONU d'une aide militaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit le soir même. Des casques bleus vont être envoyés. Mais aucune condamnation de l'agression belge, aucune mention n'est faite du Katanga. Lumumba ne se sent ni écouté, ni soutenu. Il prend alors la décision qui signe son arrêt de mort. Il se tourne vers le pays qui a fait preuve de la meilleure volonté vis-à-vis du Congo pendant ce Conseil de sécurité, l'URSS. Brejnev saute sur l'occasion de jouer la guerre froide sur le terrain africain. Il envoie des avions pour transporter les maigres troupes congolaises dans la province sécessionniste du Katanga, ce que Eisenhower n'apprécie guère.
Les États-Unis déplorent l'action unilatérale de l'Union soviétique qui a fourni des avions et du matériel militaire au Congo. Aggravant une situation sérieuse dans laquelle des Africains tuent d'autres Africains.
Lumumba a choisi son camp, mais pas le bon, selon les États-Unis. La CIA monte alors un premier projet d'assassinat, et on imagine un empoisonnement via son dentifrice. Sur le plan politique aussi, on veut tuer Lumumba. Le 5 septembre 60, le Premier ministre est destitué sur décision du président Kasavubu. Mais le Parlement refuse. Comme il refuse également le gouvernement technique, formé des rares universitaires congolais, imposé par le chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu. Le premier coup d'État à mettre à son actif. S'ensuivent des semaines d'emprisonnement et d'angoisse pour Patrice Lumumba. À partir du 10 octobre 60, il est assigné à résidence à Léopoldville. Le 27 novembre, il parvient à s'enfuir, mais il est rattrapé par les soldats de Mobutu avant d'atteindre son fief de Stanleyville. Quand on le sort de l'avion, Patrice Lumumba n'est plus que l'ombre du fringant premier ministre qu'il a été. Des hommes le font avancer sans ménagement, l'attrapant par les cheveux. Ils lui enfournent une feuille de papier dans la gorge. selon la légende, une copie de son fameux discours de l'indépendance. Privé de ses lunettes qui lui donnent l'air d'un intellectuel, son regard est devenu celui d'une bête traquée. Emprisonné, humilié, Lumumba continue quand même à faire peur. Kasavubu est le nouvel homme fort du Congo. Mobutu, tout comme les Belges et les Américains, craignent que sa popularité intacte le ramène au pouvoir. Alors, avec l'aval de ses mentors occidentaux, Mobutu décide de livrer Lumumba à son pire ennemi, Moïse Tshombe, le président du Katanga sécessionniste.
Où nous amenez-vous ? Je t'avais prévenu. Dépêche-moi.
Le 17 janvier 1961, Lumumba et deux de ses camarades atterrissent à Elizabethville. Vers 22h, les trois prisonniers ensanglantés sont jetés dans une voiture après une ultime séance de torture. Un convoi prend la route, s'enfonçant dans la savane. À quelques pas d'une termitière géante, un trou a été creusé à la hâte dans le sol sablonneux. Lumumba et ses deux compagnons s'effondrent sous les rafales. Dans la pénombre, une vingtaine d'hommes assistent à la scène, éclairés par les phares des jeeps. Tshombe et certains de ses ministres, mais aussi des policiers et des gendarmes belges. Mais même après sa mort, le calvaire de Lumumba n'est pas terminé.
Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu.
C'était évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh bien, on a coupé les corps en morceaux. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans la batterie des voitures. Donc, la plus grande partie des corps a été...
Dissous.
Oui. Et alors, le reste, ben, on a brûlé. Hein. Enlever les trois corps de la terre, les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça.
Cet homme que vous venez d'entendre est un policier belge, flamand, garde, Soute. En 1999, 38 ans après les faits, il se confesse à la télé. Avec son frère, il a fait disparaître le corps de Lumumba 2 jours après son assassinat. Enfin, pas tout à fait.
Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant.
Content de sa boutade, Soute tire sur ses bretelles rouges face à la caméra. Et il rit à la perspective d'un Lumumba sans dents de devant. Il parle en connaissance de cause, ses dents, c'est lui qui les a arrachées sur le cadavre. Trophée, preuve de sa basse œuvre, il ne le dira jamais. Le policier belge meurt l'année suivante, en 2000. Mais cette confession glaçante allume l'espoir pour l'épouse et les enfants de Patrice Lumumba de lui donner enfin une sépulture digne. Ils entament donc une procédure et la justice belge leur donne enfin raison, en 2020. 2 ans après, lors d'une cérémonie dans un lieu très symbolique, celui du château d'Englemont, où s'était tenue la première table ronde préparant l'indépendance du Congo, le premier ministre belge, Alexander De Croo, restitue solennellement ses derniers vestiges physiques à la famille de Lumumba.
Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays.
Plus de 6 décennies après cette décolonisation bâclée, après cet assassinat que l'État belge a soutenu parce que le Lumumba ne voulait pas laisser la prédation économique se poursuivre dans son pays, après tout ce temps, enfin des excuses. Mais bien tard, probablement trop tard. Le destin tragique de Patrice Lumumba. Notre invité aujourd'hui, Colette Brackman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de l'Afrique centrale au Soir, le grand quotidien belge, le quotidien de la référence même dans votre pays, et vous avez écrit de nombreux livres sur le Congo. D'abord, pourquoi cette indépendance du Congo a été si peu et si mal préparée par la Belgique ?
Elle était mal préparée parce qu'elle était simplement impensable. Un an avant, il était inimaginable aux yeux des Belges qu'on allait donner aussi vite l'indépendance. Quand on avait émis l'hypothèse de la donner dans un délai de 30 ans, les Belges disaient que c'est de la folie. Parce qu'il y avait le mépris, il y avait une sorte de racisme, comme quoi les Congolais étaient de grands enfants et qu'il leur faudrait des décennies avant d'avoir la maturité et la capacité intellectuelle de devenir indépendant.
Mais la Belgique aurait pu persister dans une volonté de ne pas donner l'indépendance et par la brutalité, on l'a vu avec d'autres pays colonisateurs.
Oui, mais la Belgique observait aussi ce qui se passait en Algérie. On était très proches. On voyait les embarras de la France, les méfaits de la guerre d'Algérie. Et l'opinion publique belge était absolument réticente à l'idée de s'engager dans une guerre coloniale à l'instar des Français. Il n'en était pas question. Donc, il fallait trouver une autre solution, une indépendance sous surveillance, une indépendance qui n'en serait pas vraiment une, avec des Congolais qui auraient accepté la formule. Mais ça n'était pas le caractère de Patrice Lumumba.
Alors, quelle a été la place de l'uranium dans cet assassinat d'État, l'assassinat de Lumumba? Parce qu'on sait que dans les affaires coloniales, évidemment, les intérêts économiques sont prégnants, sont majeurs.
L'uranium il a été très important durant la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est l'uranium du Katanga qui a été cédé par le pouvoir colonial aux Américains. Ce sont des bombes, les bombes qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki portées de l'uranium venu du Katanga et transformées aux États-Unis. Donc, dès ce moment et même avant, mais en tout cas à ce moment-là, le Congo revêtait une importance stratégique très essentiel pour les États-Unis qui soutenaient la Belgique dans ses atermoiements et dans sa politique coloniale.
Et l'URSS, comme à son habitude, hein, à l'époque de la guerre froide, a saisi la balle au bon. On sait que la guerre froide s'est déroulée essentiellement d'ailleurs par pays du tiers-monde, pays en voie de développement à interposer. On est, à votre avis, là, dans ce cas de figure, avec le Congo? C'est-à-dire que la dimension guerre froide est importante aussi?
La dimension a certainement joué parce que les États-Unis faisaient confiance aux Belges pour gérer leur colonie, mais la gérer dans le meilleur intérêt du monde occidental et d'eux-mêmes, parce qu'il y avait les flux d'uranium et puis les Américains étaient au courant aussi des matières premières stratégiques qui se trouvaient au Congo. Mais ils faisaient confiance aux Belges. À partir du moment où les Belges ont accordé l'indépendance, où les choses ont dérapé, les États-Unis ont repris la main. Ils ont invité Lumumba à Washington et là on l'a mis l'équation en main. Est-ce que vous acceptez de maintenir les accords économiques, d'être au fond sujet des États-Unis? Et ça, c'est au mois d'août 60, Lumumba a refusé. Il a dit non, je veux une indépendance pleine et entière. Et là, l'administration Eisenhower a décrété que Lumumba n'était pas un homme en qui on pouvait faire confiance. Et au fond, il a signé son arrêt de mort, à mon avis, a vraiment été signé aux États-Unis.
Donc, l'implication de la CIA n'est pas douteuse. Elle est réelle.
Oui, elle est réelle. La CIA, qui l'observait déjà, qui était présente, il y avait déjà le principal conseiller de celui qui allait devenir le président Mobutu, était Larry Devlin, qui était un agent de la CIA, qui était avec Mobutu depuis avant l'indépendance, depuis 59. Il le cultivait, il l'observait. Et tout d'un coup, les États-Unis ont actionné tout leur système de CIA, les agents de la CIA qui étaient déjà présents, et ils ont agi côte à côte avec les Belges pour obtenir ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire la disparition de Patrice Lumumba, qui était soupçonné de vouloir un jour faire basculer le Congo dans le giron de l'Union soviétique. Tout ça dans cette atmosphère de guerre froide. Les États-Unis même ont essayé c'est un peu loufoque, mais d'empoisonner Lumumba, lui envoyer Gottlieb, un espion qui était chargé de mettre du poison dans son dentifrice. Enfin, des histoires idiotes. Oui, mais un peu anecdotiques, qui ont échoué, mais l'intention était bien là et finalement elle s'est finalisée en accord avec la Belgique.
Et quel souvenir laisse Lumumba chez les Congolais? Est-ce que c'est une figure héroïque, une icône?
Oui, c'est resté. en Belgique, d'abord, son souvenir était très mauvais pendant des années dans les milieux d'affaires, idéalisé dans les milieux progressistes, mais au Congo, il reste le fondateur, quoi. C'est l'homme qui a proclamé le droit du pays à l'indépendance. Aujourd'hui encore, il est une référence. Quand les Congolais disent « Nous sommes le pays de Lumumba », c'est une référence, c'est aussi une fierté, parce que Lumumba est devenu un héros africain, un héros mondial, et les Congolais sont fiers que cet homme-là soit issu de leur propre combat, de leur propre peuple.
Alors que Boubou, qui est devenu président, lui, j'imagine, ne laisse pas cette trace-là.
Mais oui et non, c'est compliqué, parce que Mobutu tout de même était un compagnon de route de Lumumba, et il l'a trahi. Il l'a trahi pour l'argent, il l'a trahi sous influence des Belges, des Américains, c'est évident, mais il a tout de même participé à cette idéologie nationaliste. Par la suite, arrivant au pouvoir, Mobutu est resté conscient d'être à la tête d'un grand pays qui devait occuper sa place, et il connaissait par exemple ce qu'il a appelé le contentieux, c'est-à-dire tout ce différend économique avec la Belgique, le fait que la Belgique avait rapatrié les avoirs du Congo, a dépouillé sa colonie de tout ce qu'elle possédait juste à la veille de l'indépendance. Et il y a eu d'une façon récurrente des tensions entre la Belgique et Mobutu, quand même sur une base nationaliste, et qui a abouti finalement à la rupture définitive. Et donc, pour les Congolais, quand même, Mobutu est l'homme qui a maintenu l'unité du Congo. Il a maintenu le Congo dans ses frontières, il a fait revivre ce sentiment de fierté, notamment en organisant le fameux match de boxe Mohamed Ali Foreman à Kinshasa.
Ah oui, oui.
Et donc, cette population colonisée, humiliée, traitée d'une façon absolument infantilisante, elle s'est remise sur ses pieds un peu grâce à Mobutu. Et le temps fait son œuvre. Autant on l'a vomi à la fin de son règne, quand il était le dictateur finissant,
extrêmement violent
aussi, d'Afrique, etc.
Oui.
Violent, qui ne reculait pas devant la violence. Mais il a maintenu l'unité du pays. Et cette unité qui aujourd'hui est mise en cause par les guerres à l'Est, etc., moi je rencontre de plus en plus de Congolais qui y rendent un peu justice à Mobutu, en disant quand même, le Congo de Lumumba, il l'a maintenu dans son unité et dans ses frontières.
Oui,
donc le jugement est partagé.
Oui, on dit souvent ça des dictateurs. On dit oui, mais c'était quand même des ciments.
Oui.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Colette Brackmann, je rappelle que vous êtes journaliste, grande reporter, spécialiste de l'Afrique pour le grand journal belge Le Soir. Vous êtes également l'autrice de plusieurs livres sur le Congo. Alors il se trouve que 4 décennies après les faits, l'assassinat de Lumumba est revenu au centre de la vie politique belge en 2000. Dans quel contexte? Expliquez-nous.
Mais c'est un chercheur belge qui n'était pas un historien patenté, qui travaillant dans une université, dans un centre d'études, mais un historien indépendant, un chercheur, Ludo De Wit, qui a mené ses propres recherches indépendamment de toute institution officielle. Il a mené ses recherches, il a retrouvé des témoins, il a surtout fait un énorme travail de documentation, et il a publié ce livre choc sur l'assassinat de Lumumba, en démontrant d'une façon très claire, documentée, à l'appui, les responsabilités de la Belgique, des tenants de la colonisation, du gouvernement de l'époque, des conseillers du roi. Il a mis tout ça dans un livre qui a fortement choqué. Et finalement, il y a eu, à un moment donné, les partis de gauche, socialistes et autres, ont exigé une commission d'enquête parlementaire. Il y avait déjà, à l'époque en Belgique, une forte diaspora congolaise. Les gens d'origine congolaise étaient nombreux. Ils ont exigé, eux aussi, qu'on aille au bout des choses, qu'on aille jusqu'au bout de la vérité. Et finalement, une commission d'enquête a été mise sur pied, qui a travaillé durant 2 ans et qui a fouillé toutes les archives coloniales qui avaient été soigneusement scellées jusqu'à ce moment-là.
Et est-ce que les parlementaires ont dégagé des traces de l'implication des autorités belges dans l'assassinat ?
Absolument. Les parlementaires ont fouillé tous les documents d'époque. Ils ont trouvé des évidences, notamment dans l'assassinat au Katanga, était présent sur le tarmac de l'aéroport lorsque Lumumba, blessé, maltraité, est descendu de l'avion. Il y avait des Belges, représentants du gouvernement belge qui étaient là. Mmh. Ils étaient à l'arrière-plan. Ils étaient en première ligne. Il y avait les Katangais, Tshombe et les autres qui, après, si j'ose dire, ont porté le chapeau de l'assassinat, mais les Belges étaient présents. Ils informaient Bruxelles d'heure en heure du déroulement des opérations et les consignes étaient claires. Il ne doit pas sortir vivant de cette aventure et effectivement, arrivé au Katanga, en quelques heures, il est mort sous les coups, les blessures et finalement, il a été assassiné dans une clairière alors que lui et ses deux compagnons étaient déjà tellement maltraités qu'ils étaient agonisants. Tout ça a été établi par la commission d'enquête, mais elle a tout de même épargné certains intervenants. Évidemment, c'est une commission belge. Donc, le rôle, par exemple, des États-Unis est totalement écarté. Ça n'était pas l'objet de l'enquête. Les faisceaux ne se sont pas dirigés sur les alliés extérieurs, les États-Unis, la responsabilité des Nations Unies qui auraient pu le protéger, le secrétaire général d'Ackermarschöld. Tout ça, ça n'est pas examiné par les Belges. Et alors, tout de même, elle est assez indulgente, me semble-t-il, en ce qui concerne la couronne. Le rôle du roi Baudouin la commission est assez discrète sur ce plan. Elle dit simplement, si vous voulez, que le roi Baudouin, il aurait péché par omission. Il a vu devant lui, là, il a dû contresigner des documents qui parlaient de toutes sortes de choses, notamment les préparatifs de son prochain mariage, et qu'il y a une autre ligne qui disait que Lumumba devait disparaître. Il a lu toutes ces pages, il a paraphé, donc il a donné son assentiment, et en tout cas, il n'a manifestement pas sursauté ou pas surligné les passages traitant de l'assassinat de Lumumba. Et moi, j'ai écrit à l'époque, qui ne dit mot consent.
Eh oui. Alors, dernière chose, après ce moment très important dans l'histoire des relations belgo-congolaises ou belgo-congolaises, l'assassinat de Lumumba fait de nouveau la une de l'actualité dans votre pays. 20 ans plus tard, au début des années 2020, on l'a raconté, hein, cette histoire de dents gardée par ce policier belge sordide qu'on a entendu. Alors, la famille de Lumumba est-elle parvenue à récupérer ces deux dents et pourquoi ce vestige, entre guillemets, a-t-il tellement d'importance?
Mais parce que la famille Lumumba a su dans quelles circonstances le corps avait été détruit, brûlé, tout avait été fait pour qu'il disparaisse totalement. Et puis tout d'un coup, cet ancien militaire a sorti, exhibé auprès d'un journaliste flamand une dent en disant que lui avait, c'est hallucinant, c'est surréaliste, avait voulu garder un souvenir de Lumumba, lui avait arraché deux dents, que une il l'avait jetée dans la mer du Nord et que l'autre il l'avait gardée chez lui dans un tiroir. On y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, cette unique dent était la seule chose matérielle qui restait de Lumumba. Or, la famille, la population congolaise avait envie, si vous voulez, besoin, envie de rendre hommage à Lumumba. La seule trace qui restait, c'était cette dent. Alors, on a monté toute une opération de repentance, de funérailles, qui était là aussi surréaliste, ou dans le palais d'Egmont, qui est à côté du palais royal, au cœur de Bruxelles. On a monté une cérémonie de deuil, d'hommage, où on a mis cette petite dent qui était dans une boîte, on l'a solennellement remise entre les mains de la famille de Lumumba, de ses enfants. Et puis, cette petite boîte a été mise dans un cercueil énorme qui pesait une tonne. Et c'est un cercueil blindé qui, alors, a été embarqué en grande pompe à Bruxelles et qui, au Congo, a été promené, si j'ose dire, exhibé dans tout le pays, à Kinshasa, au Katanga, partout. Et il y a eu des cérémonies d'hommage, de deuil et tout ça. Bien. Qui était à la fois une cérémonie symbolique et politique.
Bien, merci infiniment. Colette Brackmann, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Patrice Lumumba, l'indépendance assassinée, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.